Il y a quelques jours, la fête des tabernacles a pris fin. La plupart d'entre nous y ont participé. Et comme souvent après la fête, surgissent des problèmes, comme nous l'avons entendu dans les annonces, et vient aussi un certain vide intérieur, une sorte de contre-coup spirituel. On se retrouve chez soi, on reprend nos occupations habituelles et la routine reprend sa place. Il n'y a plus la fraternité joyeuse, plus les repas partagés, plus les moments de réjouissance, il n'y a plus les sorties, il n'y a plus les excursions. Il nous faut à nouveau vaquer à nos tâches quotidiennes, des tâches souvent répétitives. La fête est terminée. Place à la routine. Une routine qui parfois peut nous plonger dans le découragement, l'abattement, voire la dépression. Pourtant, c'est précisément là, dans le retour au quotidien, que nous devons nous accrocher spirituellement et continuer à servir Dieu. Car Dieu ne se manifeste pas seulement dans la fête, mais aussi dans le silence, de la simplicité, dans l'écoulement des jours ordinaires. La raison en est que l'Éternel veut nous apprendre à transformer la routine de la vie quotidienne en une occasion de marcher avec lui, même dans les choses les plus simples. Dieu veut nous enseigner que la vie chrétienne ne se limite pas aux fêtes divines, ni au sabbat hebdomadaire, mais qu'elle s'exprime aussi dans la fidélité des jours ordinaires, sanctifiés par sa présence. Souvenons-nous. Pendant 40 ans, Israël habitait sous des tentes, mais Dieu habitait au milieu d'eux. La fête des tabernacles nous a rappelé cette présence constante de Dieu. Et cette présence, la présence de Dieu ne s'arrête pas avec la fin de la fête. Elle ne doit pas s'arrêter. Cette présence continue jour après jour. La fête est terminée. Mais ce n'est pas une raison pour cesser de vivre d'une manière chrétienne. Bien au contraire. Notre vie de croyant doit se poursuivre avec la même ferveur que celle que nous avions durant la fête des tabernacles. Nous devons persévérer dans la prière. Garder nos Bibles ouvertes, entretenir la fraternité, même si ce n'est plus entre nous, face à face. Car la foi véritable ne se limite pas au grand rassemblement, elle s'éprouve et se fortifie dans la constance du quotidien, quand personne ne nous voit, mais que Dieu demeure présent. Ne laissons pas la dépression. Ne laissons pas l'abattement ou la routine éteindre la lumière de la fête. Faisons des jours qui viennent, même les plus ordinaires, faisons de ces jours des jours de foi, de prière et de lumière, où la présence divine ne cesse de se manifester dans nos vies. Jésus a promis au verset 20 Matthieu 28, verset 20, Jésus a écrit, Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, relevons nos têtes. Ne nous laissons pas abattre parce que la fête des tabernacles est terminée. Cette fête n'était qu'une étape sur notre route vers le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu étant le but ultime de notre voyage sur cette terre. Nous sommes rentrés de la fête. Et nous avons constaté que les jours avaient considérablement diminué, que les feuilles des arbres jaunissaient, que le temps se rafraîchissait et que dans nos boîtes aux lettres, les factures avaient continué à arriver. Les amis avec lesquels nous nous réjouissions il y a encore quelques jours ne sont plus à nos côtés. Terminé les repas que nous n'avions pas à préparer, terminé les réjouissances de la fête. Tout cela pourrait nous décourager, nous déprimer et même nous donner envie de tout abandonner. Le découragement fait partie de la vie. Même les plus grands serviteurs de Dieu y ont été confrontés. Nul n'y échappe un jour ou l'autre. Élie, le prophète Élie, après sa victoire sur les prophètes de Baal, fut en proie au découragement. Il s'assit sous un genêt et a dit, au premier livre des Rois, chapitre 19, verset 4, il a dit, C'en est trop, Éternel, reprends mon âme. 1 Rois, chapitre 19, verset 4. Un autre personnage biblique a été en proie à des crises de découragement. C'est David. David, à plusieurs reprises, a crié à Dieu du fond de sa détresse. Le découragement n'est pas un signe d'échec spirituel. C'est une étape humaine. Mais ce qui compte, ce qui fait toute la différence, c'est notre réaction au découragement. Allons-nous nous complaire dans le découragement ou bien choisirons-nous de nous accrocher, de nous raccrocher à Dieu, comme Jacob s'est accroché à l'ange, refusant de lâcher avant d'avoir reçu la bénédiction. Je donne la référence, c'est Genèse 32, verset 26. C'est dans les moments de fatigue, d'abattement ou de solitude que Dieu est là, que Dieu est prêt à nous aider. C'est là qu'il renouvelle nos forces, qu'il transforme notre faiblesse en persévérance et qu'il nous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Le découragement est humain. On peut être découragé pour toutes sortes de raisons. Mais si nous faisons ce que nous devons faire, si nous accomplissons la part que Dieu nous demande de faire, alors nous ne devrions jamais rester découragés trop longtemps. Si nous faisons ce qu'il faut pour plaire à Dieu, le découragement n'aura pas prise sur nous. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous ne serons jamais vaincus par le découragement. Et si nous n'abandonnons jamais notre foi, si nous restons fermement engagés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, alors non seulement nous surmonterons le découragement, mais encore nous entrerons le moment voulu dans le royaume de Dieu. Il y a une condition essentielle pour ne jamais abandonner, une condition pour demeurer debout dans les épreuves. La condition et qu'il nous faut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyons ça en Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4, nous pouvons lire. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous lisons dans la Bible que Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais il y a une condition, la condition qu'il nous faut, de notre côté, ne jamais abandonner Dieu. Les promesses divines sont toujours liées à des conditions. Souvent, notre nature humaine, souvent, nous voudrions les bénédictions sans les conditions. Nous voudrions les promesses sans l'obéissance. L'obéissance qui rend possible les bénédictions. Dieu nous demande de choisir la vie. Et choisir la vie, c'est écouter et surtout mettre en pratique les lois, les commandements, les ordonnances que Dieu nous donne. C'est ça, choisir la vie. Si nous faisons ce que Dieu nous demande, le bonheur finira toujours par venir à nous. Ah, certes, il nous arrivera des mouvements, des moments de découragement, des instants où nous sentirons abandonnés. Mais cela ne durera jamais très longtemps. Pour affronter le découragement, nous avons Dieu à nos côtés. Soyons-en assurés. Dieu est toujours là. Nous en avons la promesse dans la Bible. Mais posons-nous la question, et nous, sommes-nous là pour lui? Dieu fait toujours sa part. Mais faisons-nous la nôtre? Notre part. Notre part, c'est d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Si nous faisons notre part, Dieu ne nous promet pas que nous serons bénis en toutes choses ou épargnés de toute épreuve. Non, Dieu ne fait pas cette promesse. Mais il nous promet ceci. Il nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il nous aidera dans nos difficultés. Et c'est ce que nous pouvons lire dans de nombreux passages de l'Écriture. On peut se reporter, par exemple, au livre d'Ésaïe, Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 2. Nous lisons, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Quelle belle promesse, quel encouragement pour nous. On peut également se reporter à Hébreux. Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, nous lisons. Chapitre 13, verset 5. Verset 5 d'Hébreux 13. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, maintenant écoutons bien ce que Dieu dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est une belle promesse. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Dieu nous promet de faire sa part, mais il nous revient, comme je l'ai dit, il nous revient de faire la nôtre. Et pour ne jamais abandonner, pour ne jamais douter de la parole de Dieu et de ses promesses, pour ne pas se laisser submerger par le découragement, ni tomber dans la dépression après les moments de fête et de réjouissance, nous allons voir, au cours de cette étude, au cours de ce sermon, six choses essentielles à faire, six attitudes spirituelles à cultiver pour tenir bon dans la foi. Le sermon s'intitule Ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager est le titre du sermon. Première chose à faire pour ne jamais se décourager, il nous faut toujours nous rappeler que Dieu peut toutes choses. C'est ce que nous avons lu, c'est ce que nous avons lu au verset 26 de Matthieu 19. À Dieu, tout est possible. Matthieu 19, je vais le reprendre. Matthieu 19. Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Savoir qu'à Dieu, tout est possible doit nous donner totale confiance en lui. Dieu peut toutes choses, il soutient toutes choses. C'est ce que nous lisons également au chapitre 32 de Jérémie. Jérémie 32. Chapitre 32, verset 17, nous lisons, Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Et on peut lire un peu plus loin, verset 27, toujours de Jérémie 32, verset 27, voici. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Si nous avons la foi que Dieu soutient toutes choses, alors rien de ce qui nous arrive ne pourra nous faire chanceler. Nous pourrons traverser des temps difficiles, des pertes, des incompréhensions, des fatigues. Mais si nous croyons que Dieu est souverain, nous ne perdrons jamais courage. La foi véritable ne consiste pas à croire que tout ira toujours bien, mais à croire que Dieu est au contrôle même quand tout semble aller mal. C'est cette foi qui nous garde debout. Cette thèse, c'est celle-ci, c'est cette foi qui nous empêche d'abandonner, même lorsque tout s'écroule autour de nous. Reportons-nous au livre des Colossiens. Colossiens, chapitre 1. Colossiens 1, verset 17, il est écrit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et en Hébreux, chapitre 1, un peu plus loin, Hébreux 1, verset 3, Dieu ajoute, Hébreux 1, verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose. Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Autrement dit, le monde entier tient parce que Dieu le soutient. Nos vies tiennent parce que Dieu les porte. Même quand nous ne voyons rien. Même quand nous ne comprenons rien, même quand nous ne comprenons pas les événements qui peuvent arriver, les accidents, soyons assurés d'une chose, Dieu agit. C'est lui qui maintient l'univers, c'est lui qui maintient les saisons, nos cœurs et nos pas. Si nous avons cette conviction profonde, alors, quoi qu'il puisse nous arriver, nous n'abandonnerons jamais. Nous resterons fermes de la foi et personne ne pourra nous décourager. Car celui qui a compris que Dieu est le fondement de toute chose ne se laisse pas ébranler par ce qui se passe et par ce qui arrive. Il sait que derrière chaque événement, chaque épreuve, il y a une main invisible, une main fidèle qui conduit tout avec sagesse et amour, même si on ne comprend pas tout. C'est cette foi qui donne la paix dans la tempête, la confiance au milieu du doute. C'est cette foi qui nous aide à persévérer au milieu des jours ordinaires. 2 Corinthiens 5, il est écrit, 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tant que nous gardons les yeux fixés sur Dieu, tant que nous garderons les yeux fixés sur Dieu, le découragement ne pourra pas nous dominer. Il pourra nous effleurer, certes, mais jamais nous vaincre. Le découragement ne pourra jamais nous vaincre, car nous savons que celui qui soutient l'univers soutiendra aussi notre vie jusqu'à la fin. Voyons maintenant un deuxième point. Une deuxième chose à prendre en compte pour ne jamais se laisser décourager et pour ne jamais avoir le sentiment d'être abandonné par Dieu. Ce deuxième point, c'est la confiance totale que nous devons avoir en Dieu. Nous devons avoir confiance, une confiance totale. Lorsque nous sommes découragés, nous nous posons souvent des questions. Où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi un accident? Pourquoi reste-t-il silencieux? Nous nous interrogeons sur la vérité. Nous doutons parfois des promesses. Et ces pensées peuvent nous conduire à remettre en cause les enseignements mêmes que nous avons reçus. Mais la foi, c'est précisément croire même quand nous ne voyons rien. Croire que Dieu agit même dans le silence. Croire que ses promesses sont certaines, même quand leur accomplissement semble tarder. Lorsque Dieu dit à Abraham que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Abraham n'a pas cherché à comprendre comment cela se réaliserait. Il n'a pas raisonné selon la logique humaine. Il n'a pas mis en doute la promesse de Dieu. La Bible dit simplement, Genèse 15, verset 6, il dit, la Bible dit, Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa à justice. Je ne vais pas m'y reporter, c'est Genèse 15, verset 6. La foi d'Abraham ne reposait pas sur ce qu'il voyait, mais sur la fidélité de Dieu. Et cette même confiance, et c'est cette même confiance que Dieu attend aujourd'hui de chacun d'entre nous. Les temps deviennent difficiles. Les temps devant nous vont être difficiles. Il nous faudra donc plus que jamais faire confiance à Dieu. Il nous faut toujours faire confiance à Dieu en mettant, quoi qu'il arrive, notre confiance en lui. Reportons-nous à Romains chapitre 8, verset. Romains 8, verset. Verset 28, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne jamais se séparer de Dieu et avoir confiance, avoir toujours confiance en lui, c'est la condition sine qua non pour ne pas se laisser, pour ne pas laisser le découragement l'emporter. Pour autant que nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous, le découragement ne pourra jamais, jamais avoir prise sur nous. Abraham n'est pas le seul à avoir démontré cette confiance totale. C'est pas le seul. De nombreux hommes et de nombreuses femmes de la Bible, de nombreux hommes et femmes de foi à travers la Bible ont vécu des situations où tout semblait perdu. Mais ils ont choisi de faire confiance à Dieu malgré tout. Il en fut ainsi pour Job. Voilà un homme qui a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé. Et pourtant, il écrit au verset 15 de Job 13, Job, Job 13, verset 15, voici, quand même, on me tuerait, il me tuerait. Je ne cesserai d'espérer en lui, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Job a souffert. Job a douté. Il a posé des questions, mais il n'a jamais cessé de croire que Dieu avait le dernier mot. Et à la fin, Dieu a rétabli Job et l'a béni davantage qu'au commencement. Daniel est un autre exemple d'homme qui a mis sa confiance en Dieu. Daniel, jeté dans la fosse aux lions, n'a pas paniqué. Il n'a pas cherché à se défendre. Il a simplement fait confiance à Dieu et Dieu a fermé la gueule des lions. Cette confiance, c'est ce qui a fait de lui un témoin puissant dans un monde païen hostile à la foi. Le découragement commence toujours quand nous cessons de fixer nos yeux sur Dieu pour les tourner vers les circonstances. Pierre en sait quelque chose. Tant qu'il regardait Christ, Pierre marchait assurément sur l'eau. Il n'y avait aucun problème. Mais dès qu'il a cessé de regarder au Seigneur, dès qu'il a cessé de regarder Christ, pour regarder quoi? Pour regarder la tempête, il a commencé à sombrer. Reportons-nous à nouveau au livre d'Ésaïe, Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 3, nous lisons: À celui qui est ferme dans ses sentiments, en fait, une traduction littérale serait à celui dont l'esprit est concentré sur Dieu, à celui dont l'esprit est concentré sur Dieu, voilà, c'est la traduction littérale, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. C'est pas ferme dans ses sentiments ne reflète pas exactement ce que veut dire le verset. La confiance totale en Dieu C'est cette paix intérieure qui ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de celui en qui nous croyons. La confiance totale en Dieu, c'est savoir que même si tout chancelle autour de nous, et ça peut arriver, Dieu restera, Dieu reste le même, fidèle, puissant et bon. C'est pourquoi, même quand nous ne comprenons pas ce qui peut arriver, même quand les promesses semblent tarder, même quand la prière paraît sans réponse, nous devons continuer à croire. Car Dieu agit souvent dans le silence, et c'est dans ces moments-là qu'il façonne notre foi, qu'il nous apprend à le connaître, non par les émotions, mais par la confiance. Isaïe 40, verset 31. Mais ceux, verset 31 d'Isaïe 40, mais ceux qui se confient en spécial qui nous est donné, cette force, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera le troisième point de mon étude. L'Esprit Saint est une aide précieuse pour nous aider à lutter contre le découragement. C'est une aide précieuse pour trois raisons. Premièrement, c'est une aide qui nous permet de maintenir notre foi. Sans l'Esprit Saint, il ne peut y avoir de foi réelle et authentique. Deuxièmement, c'est une aide qui nous permet de persévérer dans la bonne direction. Le Saint-Esprit nous conduit là où Dieu veut nous mener. Et troisièmement, le Saint-Esprit de Dieu nous donne la capacité de ne jamais douter de Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans notre marche avec Dieu. Sans lui, sans le Saint-Esprit, notre foi s'épuiserait vite. Notre zèle faiblirait. Et le découragement finirait par nous envahir. Mais avec lui, avec le Saint-Esprit, nous recevons force, consolation et espérance. Christ, Jésus-Christ, savait que ses disciples auraient des moments de peur, de faiblesse et de découragement. Il le savait. C'est pourquoi il leur a promis un consolateur. Reportons-nous au livre de Jean. Jean 14. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et allons un peu plus loin au verset 26. Mais le consolateur, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, il renouvelle notre vision, il élève nos pensées au-dessus des difficultés et il nous aide à voir les choses comme Dieu les voit. Ainsi, c'est ainsi que le découragement perd son pouvoir. Le Saint-Esprit n'enlève pas les épreuves, mais il nous donne la force de les traverser. Le Saint-Esprit transforme nos plaintes en prières, nos larmes en intercession et nos faiblesses en dépendance totale envers Dieu. Voyons maintenant un quatrième moyen pour ne jamais se décourager. Une quatrième raison de ne jamais abandonner. Pour ne pas laisser le découragement nous emporter, il nous faut toujours garder le contact avec Dieu. C'est le quatrième point de cette étude, demeurer en relation constante avec Dieu, en relation constante avec notre Créateur. Les prophéties nous disent qu'au temps de la fin, le peuple de Dieu sera dispersé, découragé et divisé. Ce sont les prophéties qui le disent, et ce qu'elles disent, nous le voyons. Reportons-nous à Jean 16. Jean 16, verset. Jean 16, le chapitre d'après. Jean 16, verset 32. Voici l'heure vient où elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Même si sur un plan humain, on peut se sentir seul, et on peut, ça arrive qu'on se sente seul. En réalité, on ne l'est pas. On ne sera jamais seul, car Dieu sera toujours avec nous si nous continuons à lui obéir, si nous maintenons le contact avec lui, si nous continuons à faire sa volonté et à maintenir en nous son Saint-Esprit. Pour ne jamais se sentir découragé, demandons en toutes choses, en toutes circonstances, en tout temps, l'aide de Dieu. N'ayons pas peur de nous adresser à Dieu. Il ne faut pas craindre de prier. Matthieu 7. Matthieu 7. Et on va aller au verset 7. Matthieu 7, verset 7. Nous lisons. Demandez, il vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Et verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lorsque nous cessons de parler à Dieu, lorsque nous cessons de demander, lorsque nous laissons la prière s'éteindre, notre cœur devient vulnérable au doute, à la peur et au découragement. En revanche, quand nous restons en contact avec Dieu, par la prière, par la lecture de sa parole, par la méditation et les actions de grâce, alors la flamme spirituelle restera allumée. Quand nous sommes abattus, le réflexe naturel est de fuir, de nous renfermer, de chercher des solutions humaines. Mais Dieu appelle à faire l'inverse. Il nous appelle à revenir vers lui, à lui parler, à nous approcher de sa présence. Reportons au livre de Jacques. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8, nous lisons. Approchez-vous de Dieu, il vous approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il n'y a pas d'autre moyen pour lutter contre le découragement. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La proximité avec Dieu ne supprimera pas les épreuves, mais changera notre manière de les vivre. La proximité avec Dieu nous donne la force de tenir, la lumière pour comprendre et la paix pour continuer. Aucune relation ne peut grandir sans communication. Si nous voulons ne jamais sombrer dans le découragement, nous devons nourrir chaque jour notre relation avec Dieu. C'est là que se trouve la source du courage, de la foi et de la joie. C'est là que se trouve l'antidote au découragement, l'antidote à l'abattement. Voyons maintenant le cinquième point de ce sermon. Pour ne jamais se décourager, faisons en toutes circonstances preuve de patience et de persévérance. Cinquième point, faisons preuve de patience et de persévérance. L'apôtre Paul a été attaqué de toutes parts. Après son appel, rien ne lui fut épargné. Ses anciens amis le persécutèrent et ses nouveaux frères se méfiaient de lui. Et pourtant, malgré toutes ces épreuves, Paul eut l'attitude que nous devrions tous avoir face aux circonstances négatives de la vie. Cette attitude peut se résumer en quatre mots. En quatre mots. Patience, persévérance, confiance et humilité. Patience, persévérance, confiance et humilité. Si nous avons confiance en Dieu, si nous restons humbles, nous traverserons toutes les épreuves. Ces quatre mots, patience, persévérance, confiance et humilité, nous aideront toujours à franchir les moments difficiles. Dans tout ce que nous faisons, le mérite ne nous revient pas. C'est toujours Dieu qui agit à travers nous. Personne ne peut se vanter de ses réussites. L'Église de l'Odyssée. L'Église de l'Odyssée oublie ce point essentiel. Et c'est ce qui l'a conduit à la tiédeur et l'amènera à la tribulation. Nous vivons dans un monde qui veut tout, mais tout de suite. Mais Dieu ne travaille pas selon le rythme de notre impatience. Il agit selon son temps, qui n'est pas notre temps. Dieu agit selon son temps, un temps parfait, souvent différent, très différent du nôtre. Et c'est précisément dans cette attente que notre foi est mise à l'épreuve. Reportons-nous à Hébreux. Hébreux 10, verset 36. Nous lisons Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous avons tous besoin de persévérance. On doit faire preuve aussi de patience. La patience n'est pas de la passivité. Il ne faut pas confondre patience et passivité. Au contraire, la patience est une confiance active, une attitude de foi qui attend Dieu sans se relâcher. La patience consiste à croire que même si nous ne voyons pas encore les fruits, Dieu est en train d'agir. Pensons à Noé, cet homme qui a construit une arche pendant des décennies sans voir une goutte de pluie. Pensons à Joseph, qui a attendu des années entre le puits dans lequel il a été jeté et le palais. Pensons à David, loin comme roi, alors qu'il dut encore fuir de nombreuses années, il dut encore fuir Saül, bien qu'il ait été loin roi. Tous ces hommes ont appris que le temps de Dieu n'est jamais en retard, mais toujours juste. Galates, chapitre 6. Galates. Galates, chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, il y a une condition, ne pas se relâcher. La persévérance. La persévérance, c'est refuser de baisser les bras quand les résultats tardent. C'est continuer à prier, à servir, à croire, même quand tout semble immobile. C'est cette persévérance qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui voient la victoire. Quand nous acceptons le rythme de Dieu, le découragement perd de force, perd de sa force. Nous cessons de vouloir forcer les choses et nous apprenons à marcher avec Dieu, un pas à la fois. Le secret, c'est de ne jamais arrêter de croire, mais quand rien, même quand rien ne change, même quand rien ne change, n'arrêtons jamais de croire, n'arrêtons jamais de prier, n'arrêtons jamais de persévérer. Car Dieu, quoi qu'il arrive, ne nous oubliera jamais. Dieu ne nous oublie pas. Ce que nous semons aujourd'hui dans la fidélité, nous le récolterons demain dans la joie. Il y a une parabole qui illustre parfaitement ce qu'est la persévérance. Vous la connaissez, je ne vais pas m'y reporter. Je vous en donne la référence, ainsi vous pourrez la relire chez vous. C'est la parabole du juge inique qu'on trouve en Luc 18. C'est une parabole qui nous enseigne la nécessité de persévérer dans la prière et de ne pas se décourager. Et cette parabole, la parabole qu'on appelle la parabole du juge inique, se termine par une question. Luc 18, on va lire la question. Luc 18. Verset 8. Lisons la question qu'on trouve à la fin de cette parabole. Luc 18, verset 8. À la fin du verset 8, nous lisons, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra, c'est une question. Maintenant, lisons la question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Une redoutable question. Cette question met en lumière le véritable enjeu. Le véritable enjeu est de demeurer fidèle et persévérant jusqu'à la fin, malgré les épreuves, malgré les délais apparents, malgré le silence apparent de Dieu. Dieu, soyons-en assurés, n'est pas sourd à nos prières, mais il veut que notre foi grandisse dans l'attente. Car la foi authentique n'abandonne pas, même quand la réponse tarde. Maintenant, voyons le sixième et dernier point de mon étude, le sixième et dernier point de mon sermon. Le sixième point de mon sermon, le sixième point de mon étude porte sur la foi. Une autre arme puissante pour ne jamais se décourager et ne jamais abandonner, c'est la foi. On y est. Revenons, on y est, revenons à la parabole du juge unique. Allons, non pas à la conclusion de cette parabole, mais à son épilogue. Ne confondons pas une conclusion et un épilogue. Un épilogue n'est pas une simple conclusion. Un épilogue, c'est ce qui vient après la conclusion. L'épilogue, c'est la morale de l'histoire, le message profond que Christ veut laisser à ses auditeurs après avoir raconté la parabole. Et dans ce cas précis, l'épilogue se trouve dans la question que Christ pose à la fin de la parabole. Nous l'avons lu précédemment, relisons-la. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Cette question ne s'adresse pas seulement aux disciples d'alors. Cette question s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Cette question nous invite à réfléchir. Garderons-nous la foi jusqu'à la fin? Christ nous pose la question. La foi qui persévère, la foi qui prie sans se lasser, la foi qui croit aux promesses de Dieu même quand tout semble tarder. La foi dépend de beaucoup de choses. La foi dépend de notre attitude. La foi dépend de notre conviction avant nos prières se réaliser. La foi dépend de ce que nous faisons. La foi dépend de la manière dont nous voyons les choses. La foi dépend également de la manière dont nous travaillons, non pas avec les hommes, mais avec Dieu. Ne nous décourageons jamais. Soyons convaincus que nous ne devrions jamais abandonner. De l'Église apostolique à l'Église de Dieu actuelle, l'Église de Dieu a passé à travers des hauts et des bas. Elle a été attaquée de l'extérieur, elle a été attaquée de l'intérieur, et pourtant l'Église est toujours là. Et ceux qui voulaient sa destruction ou en modifier les fondements ont toujours, toujours échoué. L'Église de Dieu existera encore au retour du Christ. Certes, elle sera éprouvée, mais ces épreuves auront pour but son bien et son salut. Si l'Église de Dieu doit subsister jusqu'au retour du Christ, cela signifie qu'elle devra persévérer. Non pas seulement comme une institution, non pas comme un corps administratif, mais comme un corps vivant, un corps spirituel composé de croyants fidèles. Cette persévérance collective repose sur la persévérance individuelle de chacun d'entre nous, la persévérance individuelle de chacun des membres de l'Église, du corps spirituel. Une Église forte, c'est une Église remplie d'hommes et de femmes qui tiennent bon dans la foi, malgré les tempêtes, des hommes et des femmes qui gardent leur espérance allumée et qui continuent à marcher avec Dieu jour après jour. Retournons à Matthieu, Matthieu 24, verset 13. Nous lisons. Matthieu, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour être sauvé, il nous faut persévérer. L'Église sera peut-être minoritaire, combattue, méprisée, mais elle restera debout, car Christ a promis qu'elle en sera ainsi. Allons un peu plus haut en Matthieu 18, Matthieu 16, pardon. C'est Matthieu 16 et verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi, quand nous lisons cela, c'est pourquoi chacun de nous a une responsabilité, demeurer fidèle, afin que par nos vies, l'Église dans son ensemble demeure ferme jusqu'au jour de son retour. Ne nous décourageons jamais. Persévérons toujours. La fête des tabernacles s'est terminée il y a quelques jours. Nous aurions humainement bien des raisons de nous laisser abattre, mais persévérons. Rappelons-nous que Dieu est en charge de son Église. Il en est le chef et c'est lui qui la conduit. Le problème de l'Odyssée, et plus largement le problème de beaucoup d'appelés à travers les différentes ères de l'Église, n'a jamais été le manque de connaissances bibliques, mais le fait d'avoir perdu de vue que c'est Dieu qui dirige tout et qu'il est le chef de l'Église. Qu'est-ce que l'Odyssée a perdu de vue? Et à titre individuel, qu'est-ce que nous pourrions, nous aussi, perdre de vue? Et Job nous donne, Job, au chapitre 19, nous donne la réponse dans un verset souvent peu cité, un verset souvent oublié, Job, pardon, verset 19, verset 25. Job. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, verset 25, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Voilà ce que nous risquons d'oublier. Oublier que Dieu est vivant et qui est en charge de tout. La véritable question est donc, faisons-nous confiance en Dieu ou faisons-nous confiance en nos propres forces? Faisons-nous confiance en Christ ou faisons-nous confiance en des hommes? Notre confiance, nous devons la mettre en Christ et non en des hommes. Beaucoup comprennent cet enjeu. Beaucoup comprennent que mettre sa confiance en l'homme, c'est dangereux. Et se disent, bon, l'homme, on ne peut pas avoir confiance en l'homme. Certes, alors mettons notre confiance dans la technologie. Mettons notre confiance dans l'intelligence artificielle. Beaucoup espèrent beaucoup de l'intelligence artificielle générale, qu'on appelle IAG, parfois aussi appelée intelligence générale globale ou AGI, Artificial General Intelligence en anglais. AGI, on en parle beaucoup actuellement. Certains sont convaincus qu'elle résoudra tous les problèmes de l'humanité. La maladie, la pauvreté, le réchauffement climatique et les guerres. L'AGI, à en croire certains, devrait tout résoudre. Mais il se trompe. Il se trompe. Une intelligence coupée de Dieu est une intelligence aveugle. Elle peut être brillante, mais elle est sans lumière. Elle peut accumuler le savoir, mais elle est sans sagesse. Elle peut concevoir des outils puissants, mais est incapable de discerner le bien du mal. Proverbe. Reportons-nous au livre des Proverbes, chapitre 1. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. L'intelligence véritable ne se mesure pas à la quantité de données que l'on possède, mais la capacité de reconnaître la souveraineté de Dieu. Et aujourd'hui, aucun super ordinateur ne sait reconnaître la souveraineté de Dieu. Toute connaissance séparée du Créateur devient tôt ou tard orgueil et confusion. Et reportons-nous à Romains 1, vous savez où je veux aller? Romains 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et on est arrivé à cette époque. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'homme peut créer des machines capables d'apprendre, de raisonner et même de simuler l'émotion. Mais sans Dieu, il ne pourra jamais créer la vie spirituelle ni la sagesse divine. Reportons-nous à Jacques. Jacques, verset 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Ainsi, l'AGI, l'intelligence artificielle générale, pourrait devenir une grande bénédiction ou un grand danger, selon l'esprit qui la dirige. Car, comprenons quelque chose, comprenons que ce n'est pas la puissance de l'intelligence qui sauvera le monde, mais la lumière de Dieu dans le cœur de l'homme. La ville de Laodicée, située en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, près de la ville moderne que certains peut-être d'entre vous ont visitée, la ville moderne de Denizli, avait été détruite par un tremblement de terre. Mais, fiers et riches, les habitants de la ville choisirent de reconstruire seuls, sans accepter d'aide extérieure, pas même celle de Rome. Et cette attitude symbolise parfaitement l'esprit de l'ère de Laodicée. Une église qui possède la connaissance, mais qui manque de dépendance envers Dieu. Avoir la connaissance des Écritures ne sert à rien si nous n'avons pas la foi vivante et l'amour du prochain. Mon ordinateur a la connaissance de l'Écriture. Il a toutes les versions de la Bible qui puissent exister, mais n'a pas la foi, il n'a pas l'amour du prochain. Car la connaissance seule enfle, mais l'amour édifie. Je vous donne la référence, je ne vais pas m'y reporter, c'est 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1. La connaissance enfle, mais uniquement l'amour édifie. Il me faut maintenant conclure ce sermon. Nous poursuivons tous le même but, celui d'entrer un jour dans le royaume de Dieu. Notre espérance, c'est de devenir des êtres spirituels, transformés à l'image du Christ et de voir Dieu face à face dans sa gloire. 1 Corinthiens 13. Corinthiens 13, verset 12, nous lisons. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est pour ce but que nous marchons. C'est pour ce but que nous persévérons et que nous refusons de nous laisser décourager. Refusons le découragement. Car tout ce que nous vivons ici-bas n'est qu'une préparation à la vie éternelle que Dieu nous promet. Reportons-nous à Philippiens. Philippiens 3, verset 14. Nous lisons. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous poursuivons tous le même but, celui d'être un jour dans le royaume de Dieu, de devenir des êtres spirituels et de voir Dieu face à face. Job avait compris ce but. Revenons au livre de Job. Job, verset 19. Verset. Job, chapitre 19, verset 26. Job, 19, verset 26. Job avait tout compris. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Et verset 27, je le verrai. Nous, si nous le verrons, il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job attendait le moment où il verrait Dieu face à face. C'est aussi ce que nous attendons. C'est aussi notre but, le but de notre appel et notre foi. N'oublions jamais ce but. Notre objectif, c'est le royaume de Dieu. Si nous gardons ce but devant nos yeux, nous ne pourrons jamais rester découragés. Certes, comme je l'ai dit plus haut, nous connaîtrons des hauts et des bas, mais sachant que Dieu veut que nous soyons tous sauvés, nous pouvons nous reposer en lui avec confiance. Aussi bien vous que moi, nous avons un avocat devant Dieu. N'oublions pas cela. Nous avons un avocat, Christ. Christ prie pour nous. Il est notre grand sacrificateur, notre intercesseur auprès du Père. Nous avons cette assurance. Christ ne nous abandonnera jamais. Dans les épreuves, il peut y en avoir. Cherchons les solutions, non pas selon la logique humaine, car le raisonnement humain n'a rien à voir avec la foi. Le raisonnement humain n'a rien à voir non plus avec les promesses de Dieu. Soyons assurés de quelque chose. Soyons assurés. Si Dieu a promis quelque chose dans sa parole, il tiendra promesse. Soyons-en pleinement assurée. Mais souvenons-nous, chaque promesse accomplie sont les conditions divines, et ces conditions passent toujours par l'obéissance à Dieu. Dans ce sermon, dans cette étude, nous avons vu six moyens, six raisons pour ne jamais se décourager. Première chose que nous avons vue, toujours se rappeler que Dieu peut toute chose. Rien ne lui est impossible. C'est lui qui soutient l'univers et c'est lui qui nous soutient jour après jour. Deuxième chose à retenir, pour ne jamais se sentir découragé ni abandonné, il nous faut faire confiance à Dieu. Confiance à Dieu en toutes circonstances. Il nous faut croire que ses promesses sont vraies, même que nous ne voyons pas encore leur accomplissement. Troisième point que nous avons vu, se rappeler que Dieu est présent en nous et qu'il est toujours prêt à nous aider par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est notre force, notre consolateur, notre soutien dans les moments de faiblesse. Quatrième moyen, garder le contact avec Dieu par la prière, par la méditation, par l'étude de sa parole. C'est dans cette communion constante que nous trouvons la paix et la stabilité spirituelle. Cinquième point, faisons preuve de patience et de persévérance en toutes circonstances. Apprendre à attendre le temps de Dieu avec humilité et confiance. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, car sans confiance et sans humilité, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Sixième point que nous avons vu, la foi. La foi véritable s'appuie sur la parole de Dieu et s'exprime par la prière. On peut lire ça, un dernier verset. Je vais m'y reporter. Jacques 5, verset 15. Jacques 5, verset 15. Nous lisons. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ce verset, le verset 15 que nous venons de lire, de Jacques 5, chapitre 5, nous rappelle que la foi ouvre la porte à la délivrance, à la guérison et au pardon. Souvenons-nous, le découragement fait partie de la vie, mais il ne doit jamais nous vaincre. Que nous avons en Dieu tout ce qu'il faut pour tenir bon. Persévérer, persévérons et gardons la foi. Il nous appelle à marcher avec lui, à lui faire confiance, à laisser son esprit nous fortifier, à demeurer en communion constante avec lui, à attendre son intervention avec patience et à prier avec foi. Si nous mettons en pratique les six raisons que nous avons vues de ne jamais nous décourager, le découragement ne pourra pas nous dominer. Nous serons affermis, enracinés, inébranlables, et notre espérance demeurera vivante jusqu'à la fin. N'oublions jamais le but, le royaume de Dieu. C'est là que tout aboutit, là que toutes les promesses s'accompliront, là que nous verrons Dieu face à face et que toute larme sera essuyée. Apocalypse 14. Apocalypse, non pas 14, on va aller à Apocalypse 21. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons à prier, continuons à espérer, à aimer, à servir, car bientôt, celui que nous attendrons Ce que nous attendons viendra. Il viendra, beaucoup plus vite que beaucoup d'entre nous peuvent le croire, et avec lui, la récompense promise à ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Il viendra et nous apportera la récompense. Hébreux 10, verset 37. Hébreux 10, verset 37, nous lisons. Et encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Restons donc fidèles, confiants et plein de foi, car notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat.